Est-ce la bonne décision? Trop tard pour moi. Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi énergie-climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Bonjour et bienvenue à Actualité économique du jour. Gabriel Attal hier sur TF1. Bon, le mot d'ordre, c'est le travail. La seule solution, c'est le travail. Donc pour avoir plus de travail, le Premier ministre va bel et bien engager une réforme de l'assurance chômage. Je vais vous la faire en un mot. La France, en 2024, va globalement faire la loi Hartz de 2004. On va coller le système allemand. Probablement que nous serons indemnisés 12 mois et qu'il faudra avoir travaillé 12 mois pour accéder à l'assurance chômage. C'est-à-dire exactement les critères aujourd'hui qui sont pratiqués chez nos amis allemands. Sur les impôts, il ne veut pas de hausse d'impôts, il l'a répété le Premier ministre. Même si taxer des profits exceptionnels est imaginable, dit-il. Moody's est formel, vous ne serez pas à 2,7% de déficit en France en 2027. L'agence se prononce avant le 26 avril où elle décidera si elle abaisse ou pas la note de dette souveraine de la France. Ce sera l'occasion de faire un petit point sur la situation comptable du pays. C'était un peu le chiffre de la semaine. La Cour des comptes dégaine une attaque en règle contre la première des niches fiscales en France, celle des services à la personne. Elle coûte plus cher que le crédit d'impôt recherche, près de 9 milliards d'euros en 2022 avec du crédit d'impôt, de la TVA réduite, des exonérations de cotisations. Il faut s'y attaquer, dit la Cour des comptes, sauf que chaque fois qu'on l'a fait, on a vu accroître l'économie grise et le travail au noir. Bonjour Gilles Raveau.
Bonjour Monsieur Dose.
Bienvenue, maître de conférence à l'Institut d'études européennes de Paris 8 Saint-Denis. Vous avez publié Économie, on n'a pas tout essayé au seuil. Philippe Trénard, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Professeur au CNAM, membre du Cercle des économistes, partenaire de cette émission chaque jeudi. Je reviens vers vous dans un instant. Bonjour Stéphane Van Uffel.
Bonjour Nicolas.
Co-fondateur de netinvestissement.fr. Un petit mot sur ce qui nous attend au mois de juillet. On va se retrouver avec BFM Business pour les traditionnelles rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Comment vous voyez cette session, Philippe?
Je crois qu'elle est importante avec un titre Lier les mondes qui peut paraître très optimiste au fond quand on regarde les nouvelles qui tombent tous les jours.
Lier les mondes.
Lier les mondes, oui. Relier les mondes. Mais en revanche, je crois que c'est important de conserver cette idée justement au moment où s'accumulent les mauvaises nouvelles géostratégiques, etc. La question de relier les mondes et comment on les relie devient de plus en plus d'actualité. Et je crois que ce sera un peu le thème de ces journées, c'est de dire, il faut aussi viser à laisser aux jeunes, à permettre aux jeunes de gérer ces mondes futurs et de leur donner moyen dès aujourd'hui de les gérer demain. Et on a fait une grande consultation auprès de 60 000 jeunes dont nous partagerons non point les conclusions, mais tout au moins les orientations et les recommandations, parce que je crois qu'au point où nous en sommes, on peut faire des orientations, on n'a pas de mesures précises en quelque sorte à proposer.
Justement, cette consultation auprès des jeunes, vous en aurez le commentaire des résultats le 11 avril ici même.
Voilà, absolument.
Sera là. Je crois que ça va être publié aux alentours du 7 8 avril.
Absolument. Voilà. Nous allons avoir ça tous à début avril.
Voilà. Comment les jeunes d'aujourd'hui voient le monde de demain.
Et j'encourage vos auditeurs à regarder, parce que je crois qu'on aura pas mal de sources de réflexion, des idées vraies, des idées aussi parfois un petit peu fausses qu'il faudra corriger. Et je pense que ça fait partie du débat pour l'économie de demain.
Si nous allons à 12 mois d'indemnisation chômage pour les moins de 53 ans, cela voudra dire qu'au terme des réformes engagées ces derniers mois, nous aurons divisé par deux la durée d'indemnisation. S'il faut avoir travaillé 12 mois pour pouvoir accéder à l'assurance chômage, cela veut dire qu'au terme des réformes récentes, nous aurons multiplié par 4, par 3, pardon, par 3. Le temps pendant lequel on aura travaillé pour accéder à l'assurance chômage. Normalement, sur les indemnités et leur dégressivité, le Premier ministre n'a pas l'air allant pour changer quoi que ce soit. C'est exactement le modèle allemand qui a un... Gilles Raveau, le modèle allemand en France, 20 ans après.
Très bonne punchline. Excusez-moi, j'étais concentré parce que je veux dire des chiffres et pas trop me croûter. Donc j'essaie de les réviser.
Ouais,
avant.
Évitez de vous croûter. Alors.
Ouais, j'essaie. Non, et donc je suis allé sur le très bon site gouvernemental qui s'appelle Où vont mes impôts,
un truc comme ça. Ah oui, c'est le truc que.
Voilà, et donc. Et donc, je veux dire à Gabriel, l'excellent Gabriel Attal, que vraiment, il a raison de se focaliser sur les dépenses d'assurance chômage, puisque, comme nous l'indique ce site du gouvernement, sur 1000 euros d'argent public, donc toutes les dépenses publiques et sociales, c'est-à-dire salaire des fonctionnaires, protection sociale.
Mais sur 1000 euros, où va l'argent, oui,
on est 1000 euros, ça. Où va l'argent public, donc retraite, 260.
C'est ça, oui, ça, je savais.
Santé, 200. Donc, on est déjà quasiment à la moitié. Mmh. Famille, 40. Chômage, 30. Voilà. Donc, c'était une blague pour dire que, d'un point de vue comptable, si on veut faire des économies, bah, y a des petites lignes, vous voyez, avant l'assurance chômage. Et notamment, il y a cette première ligne, mes chers retraités que j'aime beaucoup, qui sont de toute évidence, et tout le monde le dit, qui devraient être les premiers à contribuer. Ils ont un niveau de vie moyen qui est supérieur à celui de la population active. Bon, j'adore les vieux, merci les vieilles, merci papa, merci maman, tout ce que vous avez fait c'est génial et tout. Mais je veux dire, l'ordre de grandeur est déliant. C'est-à-dire, vous voyez, c'est quasiment du x10, du x10. Donc c'est grotesque, pour utiliser un terme technique d'économiste, de s'attaquer à l'assurance chômage pour des raisons budgétaires. Par contre, pour des raisons électorales, bon, là, effectivement, on comprend.
Et c'est pour des raisons, c'est pour le taux d'emploi, dans l'esprit du Premier ministre, même si aujourd'hui, c'est bien effectivement un but budgétaire. Qui est recherché.
Il se trouve, ça me remonte au cerveau d'un coup, qu'il y a quelques années, il y a eu une étude exhaustive incroyable sur les lois Hartz qui a été faite par trois économistes très forts dont j'ai oublié les noms.
Alors je rappelle, les lois Hartz, c'est tout le paquet de quatre lois qui est engagé par le chancelier de gauche, Schröder, au début des années 2000, après la réunification de l'Allemagne. Et c'est ce qui va lancer l'Allemagne dans une politique de l'offre ultra-mercantile.
C'est ça. Alors c'est une très belle histoire, hein, puisque Hartz était le nom du chef du personnel de Volkswagen.
Peter Hartz.
Et Gerhard Schröder, qui effectivement était social-démocrate, a fini sa carrière chez Poutine. Donc c'est une très belle histoire à tout point de vue, mais vraiment, hein, puisqu'il a quand même été au conseil d'administration de Gazprom, non, mais voilà. Et donc, non, mais pour être sérieux, tout en sérieux, vous le savez. Et donc, ces économistes avaient fait une étude très, très fouillée que j'avais lue à l'époque. J'en avais fait un résumé sur le site d'Alternative Économique. Et qu'est-ce qu'ils montraient ? C'est super intéressant. Ils montraient quel est le but des lois, le vrai but économique. C'est d'accroître la concurrence sur le marché du travail. Et ils montrent effectivement que ça a marché. C'est-à-dire qu'ils ont tellement baissé les droits des chômeurs en Allemagne que la concurrence, notamment sur le bas du marché du travail, s'est fortement accrue en Allemagne. Et quel a été le résultat ? Une baisse des salaires. C'est-à-dire que, oui, les gens les moins qualifiés en Allemagne ont eu des baisses de salaires réels parce qu'effectivement, bah, tous les chômeurs se battaient pour avoir ces boulots-là. Génial. Deuxième résultat de l'étude, et là, évidemment,
mais
ça fait mal.
Pas des lois tendres, les lois Hartz, c'était des lois dures.
C'était des lois dures.
Bah,
des lois dures, évidemment.
Personne ne le nie. Hein.
Deuxième résultat, monsieur Dose.
C'est pas tapis rouge, on est d'accord.
Chute de l'emploi. Donc, pour répondre à votre truc de hausse du taux d'emploi, eh oui. Résultat très étonnant qui a beaucoup circulé chez les économistes à l'époque, chute de l'emploi. Et là aussi, pourquoi ? Parce que vous développez des mauvais emplois peu productifs et donc, ça n'est pas vrai que accroître la concurrence du marché sur le marché du travail sur le bas, ça augmente le taux d'emploi. C'est du... Voilà, ça n'est pas vrai.
Bon. Philippe Trénard, est-ce que... Alors, je rappelle juste un chiffre. La DARES a considéré que si on baissait de 20% la durée d'indemnisation, ce qui globalement sera largement le cas, ça fait 3 milliards d'économies. C'est pas le Pérou, mais enfin... comment vous lisez...
Je crois qu'effectivement, c'est pas une question d'abord d'économie. Pour moi, c'est d'abord une question d'emploi.
Oui, mais justement...
Parce que contrairement... À ce que dit mon ami, c'est ce n'est pas du tout la réforme Mars, c'est une réforme complexe. Alors que, in fine, elle a eu un effet négatif sur l'emploi.
Il y en avait une qui était à peu près similaire à celle-là. C'était la Hartz 4.
Mais il y a beaucoup d'autres. Beaucoup d'autres dimensions de la réforme Mars. Il n'y a pas que la réforme du chômage. La réforme du chômage. Ben, d'abord, tournons-nous vers la France. Nous avons baissé la durée d'indemnisation du chômage. Le chômage a chuté en même temps. Nous sommes à 7,5% en France de chômage aujourd'hui. Deuxièmement,
le taux est en train de remonter.
Oui.
On était tombé à 7,1.
Nous sommes passés de 7,6, n'est-ce pas, à 7,5. Le dernier résultat, c'est quand même, on continue. Et 7,5, c'est un niveau bas historique. Un niveau bas historique pour la France. Deuxièmement, je voudrais insister sur le fait que les économistes de l'OCDE, les économistes internationaux qui ont fait des comparaisons internationales, montrent. Sont inversement proportionnels à la durée d'indemnisation du chômage. Mmh. C'est-à-dire que les personnes ont tendance à aller assez systématiquement jusqu'à la fin de la durée d'indemnisation du chômage, ce qui réduit à la fois l'emploi, mais aussi leurs revenus. Parce qu'au chômage, on gagne quand même moins qu'en activité, même si les revenus éventuellement des non-qualifiés ont peut-être baissé en Allemagne, ils gagnent quand même beaucoup plus qu'en étant au chômage. Donc c'est une réforme d'emploi et de pouvoir d'achat, pour vous, c'est une bonne voie.
Pour vous, le fait de réduire la durée d'indemnisation, c'est une incitation au retour à l'emploi.
Absolument. Bon, c'est une forte incitation au retour à l'emploi.
Je sais que Stéphane Carcillo, qui est un vrai spécialiste du sujet, dit c'est à peu près le seul paramètre pour lequel on a systématiquement vu l'effet que vous décrivez. Après, ça dépend à quel moment...
C'est le plus sûr.
Alors, oui, ça dépend à quel moment... on l'engage aussi.
Oui, mais ça dépend comment
on l'engage. Il peut y avoir après ça différents facteurs, et c'est de la probabilité. Nous ne sommes pas sur des mesures déterministes avec des certitudes à 100%, mais il n'y en a jamais en économie.
C'est très difficile d'avoir d'ores et déjà un recul sur la précédente réforme qui avait passé la durée d'indemnisation de 24 à 18 mois, parce qu'elle est trop fraîche pour avoir vraiment...
Quand même, elle n'a pas eu d'effet négatif, et deuxièmement, nous étions quand même le pays avec le plus, la durée la plus longue d'indemnisation.
Stéphane Venufel qui passe en troisième.
J'ai eu le temps de prendre mon petit café, tout va bien, impeccable.
Vous avez pris des notes.
Non, j'ai pas pris de notes.
Vous allez faire une synthèse.
Je vais rester, moi, toujours planté sur mes convictions depuis toujours. La première chose, je partage pas, pardon Gilles, ce point de vue de rapprocher sécurité sociale, santé, etc. en termes de budgétisation. Ce sont des assurances et c'est pas les mêmes. Et une erreur, mais fondamentalement, ça nous séparera toujours dans le positionnement de l'État. C'est que moi, j'ai des bulletins de salaire pour mes équipes. Bon, bah, il y a une assurance, c'est le chômage, c'est une ligne qui paye. Il y a une assurance chez ceci, c'est une ligne qui paye. Et l'idée de, on va remonter toutes les sources de prélèvements sociaux ou autres pour l'État, et l'État ensuite redécide là où il y a besoin de faire plus d'économies ou pas, est une erreur fondamentale qui a été prouvée depuis 1917 par l'Union soviétique qui a ce système-là. Donc c'est un détail peut-être pour les gens qui nous écoutent.
J'ai pas trop suivi votre idée, attendez Stéphane.
Gilles,
il y a une ligne chômage.
Gilles dit ça ne représente que 30 sur 100.
Ah, oui, d'accord.
Sur 1000, pardon. Oui. Sur 1000. Alors on se dit, oui, ah bah oui, peut-être que c'est pas là qu'il faut faire des économies. Peu importe, là on a un système qui est bien à part, avec une assurance bien à part. Les cotisations vont bien normalement pour ça. C'est-à-dire chaque Français, chaque citoyen, normalement, met de l'argent dans un système par répartition et il espère, il croit encore, je vais le dire comme ça, qu'il va avoir. Vous voyez, et bien sûr, je ne vais pas rentrer dans le détail avec Gilles sur le fait que moi, je préférais qu'on lui laisse et qu'il le mette dans un système privé, où là, pour le coup, on n'irait pas piocher pour budgétiser sur d'autres trous, etc., etc. Mais c'est la première chose. C'est pas ce qui m'intéresse le plus. Ce qui me gêne un peu sur le travail, et vous le savez, pourtant, je suis le Texan de service et le libéral Texan.
À chaque fois,
service.
Vous me dites que vous êtes le libéral de service.
En fait, ça surprend les gens. Ça surprend les gens. Pour moi, sur la notion de travail, qui est un fondement de besoin de productivité de notre pays, on ne devrait pas faire d'économie sur France Travail. On devrait réduire la durée. On devrait peut-être faire de la dégressivité sur les revenus. On devrait faire toutes ces choses-là. Parce que c'est un message fondamental de société. C'est le message de dire, donc, les gars, en ce moment, il faut se remettre au boulot.
Donc il ne faut pas faire ce que propose...
Si. Enfin, il faut le faire, mais pas parce qu'en fait, on a Moody's ou Standard & Poor's qui nous dit, allez récupérer 10 milliards-là. Oui. Moi, j'aimerais que ces 10 milliards-là. Je l'ai dit depuis 10 ans, Nicolas,
vous pouvez venir.
Les 10 milliards, ils restent chez France Travail. Et ils forment les gens à accompagner les gens qui perdent du boulot. Mais non, mais c'est ça, parce qu'en fait, le problème, c'est si vous leur dites, vous avez plus 2 ans devant vous, mais que 1 an, mais qu'ils savent toujours pas faire de CV, ils savent toujours pas se présenter, ils arrivent avec des casquettes, ils ont pas les moyens de transport pour, c'est foutu. Et c'est le libéral qui vous dit ça. Sauf que les 10 milliards d'économies, on les redonne pas à France Travail. On les donne à des systèmes concurrents, c'est là où je vais être d'accord, juste pour voir de l'aide, de l'accompagnement. Le travail, on ne peut pas se dire on tranche sur le travail comme on ne peut pas se dire on tranche sur l'hôpital. Non, il faut juste se dire si on doit faire des économies à certains endroits, là, à ce moment-là, c'est des vases communicants, mais des vases communicants internes au budget de l'emploi. Ça ne doit pas partir pour la sécu ou pour d'autres choses. C'est fondamental, fondamental.
Avec cette idée qu'il doit rester, il ne s'agit pas de faire d'abord des économies, mais de remettre à l'emploi.
C'est presque devenu un besoin primaire, comme se loger, se nourrir, se soigner. Travailler est devenu un besoin primaire dans la société consumériste qu'on a. Donc il faut absolument que les gens puissent travailler en bonne santé et dans des bonnes conditions.
J'ai bien compris. Alors après, on pourra avoir un autre débat. J'y avais même pas pensé ce matin, de se dire, bah oui, mais si on contracte considérablement l'ensemble des droits de l'indemnisation chômage, est-ce qu'on va contracter d'autant les cotisations? Probablement pas. Les cotisations vont rester au même niveau.
Je suis même pas venu sur ce
terrain. Les droits que ces cotisations ouvrent vont être considérablement abaissés. Bon, bref, moi je vous parie qu'on va faire du hard sphere en 2024.
Oui, mais il faut faire attention à ça, Nicolas, ce que je rappelle quand même que les lois hard, c'était quand même Allemagne de l'Ouest qui absorbait un moribond, l'Allemagne de l'Est. On est, Dieu doit louer, pas dans cette situation quand même. Donc c'était des lois qui étaient forcément, pardon Gilles, très brutales, extrêmement brutales, bah parce qu'il fallait faire travailler une main-d'œuvre de l'Allemagne de l'Est qui était au niveau de la main-d'œuvre de la Pologne, des Pays-Baltes.
On a le même problème en France. Il y a insuffisamment de travail en France. C'est l'un des problèmes majeurs de la France en comparaison internationale. Il faut remettre la France au travail.
Qu'est-ce que vous voulez dire, Gilles Raveau veut la parole.
Je voudrais dire trois choses très rapidement.
Allez-y.
La première chose...
On fait un peu d'impôt avant la pause.
Je suis toujours partant pour un peu d'impôt, ça vous le savez. Première chose, c'est excellent, c'est hyper drôle. J'ai fait un article sur le site de Charlie Hebdo. Quand a été créé ce site du gouvernement?
Bien dans le micro, hein, Gilles, parce que sinon,
pour dire exactement ce que vous avez dit, parce qu'effectivement, c'est une rupture intellectuelle majeure, ce site gouvernemental. C'est la première fois dans l'histoire de notre pays qu'on additionne les comptes de l'État et les comptes de la sécurité sociale.
Ce qui est lunaire.
Et je suis un grand théoricien de l'État social. C'est assez drôle de voir Bruno Le Maire nous parler d'État-providence. Je rappelle que l'État-providence, c'est une expression qui vient d'un député qui s'appelait Émile Ollivier au XIXe siècle, qui critiquait les assurances sociales en disant « Vous allez créer un État-providence ». Ce terme n'est plus utilisé par les chercheurs depuis à peu près 40 ans. Bon. Je fais petit détail. Il est toujours utilisé par Bruno Le Maire, qui voilà. Bon, passons.
Il est souvent utilisé encore aujourd'hui par plein de gens. Dans les articles académiques.
Oui, enfin bon, je veux dire, quand on est ministre de l'économie, on a quand même le droit. Bon, passons.
Même pas.
C'est pour dire que ce qui a été dit sur la dimension assurantielle de la protection sociale.
Si vous m'emmenez sur ce terrain, ça me passionne.
Mais c'est fondamental.
Oui, c'est fondamental.
C'est aussi une question démocratique. Voilà, c'est aussi une question démocratique, vous l'avez très bien dit. C'est une question de droit. Je rappelle que les caisses d'assurance sociale, quand elles étaient créées en France en 1945, il y a une majorité de salariés pour les gérer. C'est tout de suite changé par le général de Gaulle, qui crée le paritarisme, égalité employeur-salarié. Donc, c'est très important, et aussi les travaux justement montrent que c'est à chaque fois que la protection sociale est étatisée, elle se réduit, parce qu'il y a tout le discours sur les baisses d'impôts et donc les droits sociaux baissent. Donc en fait, cette question, c'est une question institutionnelle, politique absolument majeure. Et donc effectivement, j'avais fait un article justement sur le site de Charlie pour dire que mettre ensemble le budget de l'État et de la Sécu, comme le fait le gouvernement, ça pose un problème intellectuel. La deuxième chose que je voudrais rappeler,
C'est une présentation qui les met ensemble. On a toujours une loi de finances budgétaire et une loi de finances de la Sécu.
Tout à fait.
Les assurances maladie, l'assurance chômage.
Huisseler des gains d'un côté vers l'autre.
Vase communicant en théorie entre la TVA
et parce que sinon
l'assurance maladie n'est pas l'assurance chômage. Il y a quand même des effets de redistribution dans l'assurance chômage qu'il n'y a pas dans l'assurance maladie. Redistribution.
Mais il y a tout un débat. Mais Philippe, il y a tout un débat pour savoir ce qui doit rester du domaine de l'assurance, est-ce qui est du domaine de la solidarité, est-ce qui doit rester payé par des cotisations dans un bon modèle bismarckien, est-ce qui doit maintenant être payé par de l'impôt dans un bon modèle beveridgien. Et ce sujet est un sujet important. Et derrière, on va revenir sur notre débat. On y a passé 35 minutes hier, au grand dam de Guillaume Dard, pour essayer d'arbitrer entre la TVA et la CSG sociale. Bon, on ne va pas recommencer aujourd'hui.
Je voudrais juste revenir sur le cas de l'Allemagne. Ce que vous avez dit sur l'absorption de l'Allemagne de l'Est est très juste. Je voudrais aussi rappeler un peu d'économie politique du modèle allemand. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est que l'Allemagne, comme on sait, le modèle de croissance allemand est tiré par les exportations.
Oui.
Et vous avez un cœur professionnel de gens qui sont très qualifiés, très bien payé, très productif, mais dans la mondialisation, on a un problème de coût du travail. Qu'est-ce que font les Allemands qui est très intelligent? C'est un pur modèle insider-outsider, c'est-à-dire que la majorité sociologique, politique des gens qualifiés va voter pour une dérégulation du bas du marché du travail qui ne la concerne pas, elle. Les ouvriers de l'automobile allemand continuent à être très bien payés. Par contre, cette dérégulation va permettre une baisse indirecte très forte du coût des entreprises parce qu'elle va toucher les services, le ménage, tout ce que vous voulez, etc. Et quand on regarde le coût du travail en Allemagne aujourd'hui, il est, depuis plusieurs années, plus élevé dans l'industrie que dans l'industrie française. Par contre, il y a une très forte chute du coût des services en Allemagne du fait de la forte baisse des emplois justement non qualifiés permise, c'est absolument théorisé à l'époque de façon parfaite, par cette forte baisse de l'assurance chômage. Donc ça marche. Ça a marché pour l'Allemagne, ça a préservé une classe moyenne qualifiée. Qu'est-ce que ça a fait? ça fait exploser le taux de pauvreté en Allemagne.
Le taux de pauvreté plus élevé en Allemagne.
Voilà. Méfions-nous des comparaisons avec les Allemands. Okay. Ils sont un peuple très différent.
La notion de taux de pauvreté en Allemagne.
Non mais je conclus.
Alors il faut. On a 45 secondes.
Non mais quand même, c'est qu'aujourd'hui, on a une explosion de l'extrême droite en Allemagne qui est liée à cette hausse de la pauvreté. Alors on peut faire.
Je suis pas d'accord. C'est un taux de pauvreté relatif, donc c'est pas tout à fait pertinent.
Exactement comme chez nous, c'est les chiffres. Non mais attendez, c'est très facile de faire les petits malins.
Nous, on marque une pause
On va baisser les allocations chômage, etc. Et après on vient pleurer sur des élections. Ah c'est bizarre.
Non, et le taux de chômage en Allemagne n'a jamais été aussi bas en Allemagne. Ce qui est quand même un acquis.
La pauvreté.
On marque une pause. Si vous voulez réagir sur la pauvreté en Allemagne, bon. Pourquoi pas?
Mais bon.
Je voudrais quand même qu'on dise un mot des impôts, parce que Gabriel Attal a une position sur les impôts. Pas de hausse d'impôts, excepté sur quelques profits un peu exceptionnels ci et là, ce qu'on fait déjà d'ailleurs. Et puis il n'est pas du tout sur l'idée qu'il faut ressusciter une taxe sur les riches. Objectivement, quand on a un problème à 153 milliards, est-ce qu'il faut faire une taxe qui rapportera les 3 ou 4? Ça règle pas trop l'est. Voilà, ça règle pas trop le sujet. Allez, on marque une pause. On se retrouve dans un instant, je regarde vos réactions.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Avec Gilles Ravot, maître de conférence à l'Institut d'études européennes de Paris 8 Saint-Denis. Philippe Trénard, professeur au CNAM et membre du Cercle des économistes, partenaire de cette émission chaque jeudi. Stéphane Van Uffel, cofondateur de netinvestissement.fr. Joris m'écrit, si vous voulez débattre de la pauvreté en Allemagne, super, il n'y a plus de chômage, mais des travailleurs pauvres. Vous ne jouerez pas les surpris quand l'extrême droite sera au pouvoir. C'est un peu ce que disait Gilles tout à l'heure. Mais vous allez réagir dans un instant, Philippe, vous vouliez dire un mot. Sam m'écrit, dans un monde très changeant, comment envisager une reconversion sérieuse avec une durée de chômage si faible? Et les réactions de Michael, vu le temps qu'il faut pour obtenir une formation via Pôle emploi, 12 mois, c'est court, dit-il.
Bon, Nicolas, comme je vous l'ai dit le mois dernier, création d'entreprise, vous prenez vos 12 mois d'un coup dans le cadre de l'ACRE et vous créez votre société en partant avec le capital immédiatement.
Aide à la création
d'entreprise et vous aurez vos 12 mois d'un coup, tout de suite, sous forme de capital et vous lancez une activité.
Oui, ben il y a des gens qui ont la vocation aussi, qui l'ont tout.
Très bien, mais c'est une partie de la réponse.
J'aime bien quand les gens ici essayent d'apporter des éléments de solution. Et hier, Erwan Tison nous a apporté une réflexion intéressante sur comment faire plutôt que d'aller tailler les droits des chômeurs pour que justement ils soient le plus employables possible. Sur la pauvreté en Allemagne, qu'est-ce que vous vouliez dire, Philippe Trénard?
Je voulais dire juste.
Après, Gilles, il m'envoie des SMS. Bon, désolé d'avoir pris autant de temps pour parler de ça, mais.
Bon, c'est pas son genre.
Que le niveau de vie du bas de l'échelle sociale effectivement n'a pas augmenté en Allemagne, mais il reste supérieur à celui de la France, et qu'au total, vraiment, un travailleur, même un peu moins payé en Allemagne, gagne plus qu'un chômeur payé au chômage en Allemagne. Et donc, quelque part, cette réforme est positive. Et chez nous aussi, elle va être positive. Car il vaut mieux un revenu d'activité supérieur, même si c'est au prix d'une légère baisse, parce qu'il y a plus de concurrents sur le marché du travail, encore que chez nous, le SMIC met un plancher quand même assez rigoureux, que l'on ait plus de gens au travail et moins de gens payés.
C'est la grande idée de Gabriel Attal. Voilà, depuis son discours de politique générale, le travail doit vraiment payer
plus. La vraie solution à la situation actuelle, c'est plus de travail, n'est-ce pas ? Des retraites prises beaucoup plus tardivement et beaucoup plus de travail.
Et puis c'est des travailleurs qui, à partir du moment où ils sont en emploi, sont solvables pour avoir des projets immobiliers. C'est pas des gens qui sont en difficulté quand ils sont au chômage pour emprunter. C'est aussi une grande différence entre le marché immobilier français et le marché immobilier allemand, où le prix de l'immobilier est encore, pour l'instant, moins cher.
Et ça réduira les dépenses de l'assurance maladie, parce que le coût de la déprime des personnes au chômage, c'est énorme.
Non, mais c'est
ça, il y a un vrai sujet.
C'est le grand.
Le mal-être au travail, il y a un vrai sujet.
C'est ce que répète.
Et le mal-être au chômage. Alors, plus qu'au travail.
Non, mais de toute façon, c'est bien plus grave. Pour aller dans le sens de Gabriel Attal, c'est ce que dit Patrick Artus sur ce plateau depuis maintenant à peu près deux mois, quasiment à chaque fois. 10 points de taux d'emploi supplémentaire, tout est réglé. Gilles Berset a sorti ce calcul. 10 points de taux d'emploi supplémentaire, 130 milliards de recettes supplémentaires et on n'a plus aucun problème de finances publiques.
On peut pas faire ça plutôt que faire des économies.
Bon, et je pense
qu'on avance. Les amis européens, c'est son nom, il m'écrit, on ne construit pas une maison neuve sur les ruines d'une maison qui s'écroule. C'est pas complètement faux. C'est que si vous voulez, par exemple, imaginez vouloir commencer à toucher à la fiscalité pour tout remettre à plat. Tu touches dans un coin, pof, ça s'écroule là. Ah, il y a trop de perdants de ce côté-là. Je préfère le toucher à rien, tellement le truc est complètement. C'est une sorte de mikado absolument.
Oui, mais en même temps, l'État-providence, Je préfère cet
plus
terme.
Étape.
Et trop. Alors, et trop complexe. C'est très complexe et vous pouvez pas dire je vais mais c'est... faire table rase et puis tout rebâtir.
C'est ça. Bien pour ça que la désmicardisation, c'est cornélien. On ne sait pas comment s'y prendre. On a créé des effets de seuil dans tous les sens avec des allègements de cotises partout. On a enfermé les gens dans du 1 à 1,6 SMIC. On ne sait plus comment en sortir.
Ben, c'est réforme.
Oui, on n'a pas essayé, on n'a même pas essayé d'en sortir.
Et pour le SMIC, c'est d'abord la régionalisation. Est-ce que
je. Oui, quoi. Alors, parce que j'ai une solution pour le taux d'emploi. Une vraie, parce qu'effectivement, là, ce qui est très triste intellectuellement et politiquement, c'est que là, on va patauger hein, dans ces histoires stupides d'assurance chômage, de désmicardisation jusqu'à la fin du quinquennat.
C'est pas le même sujet, assurance chômage.
Non, non, mais je veux dire, là, on patouille pour des petits milliards. Effectivement, il y a des effets d'inertie, de résistance politique que tout le monde connaît, et donc, on va aller nulle part. Donc, on sait déjà que la fin du quinquennat va être terrible, on va avoir un niveau d'endettement monstrueux.
On va pas
un
parler des chiffres dans un instant.
De déficit très élevé, etc. Bref. Et alors, ce qui est marrant, c'est que le petit Gilles, avec son petit cerveau et son petit ordinateur, il y avait quand même une solution, il y avait une chose à faire qui était quand même très simple, déjà en 2017, qui s'appelle, tenez-vous bien, la transition écologique. Et mais oui, c'était ça le taux d'emploi. Alors non, mais attendez, laissez-moi, je vous en supplie,
oui,
Nicolas.
Oui, je vous laisse. J'ai pas l'habitude de vous couper la parole. D'accord. Me faites pas un tunnel de 6 minutes, mais
non.
Je vous laisse.
Je regarde l'heure. Bon. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait arriver en disant, surtout les taux à l'époque, les taux étaient très bas, etc. Il fallait dire bon. On va créer un immense service public de la transition écologique. On fait un bilan énergétique de tous les bâtiments, les logements, tous. On regarde, en termes d'analyse économique, où est-ce que les gains énergétiques les plus importants peuvent être faits pour le coût économique le plus faible. Un calcul de rendement archi-basique. Et on fait les travaux. Et on lance les travaux. Et le financement, on verra après. C'est de la dette, c'est de l'emprunt, c'est de l'impôt. On s'en fout. On y va. Et on crée peut-être 1 million, 2 millions d'emplois sur des années. Des emplois qualifiés. Et ça résolvait tous ces problèmes idiots. C'était une sortie vers le haut.
Gilles, climat et résilience, j'entends ce que tu dis. C'est pas aussi jusqu'au boutiste de ce que tu dis, mais la loi climat et résilience de juillet 2021 sur les fameuses passoires thermiques et l'obligation qu'il va y avoir, elle va dans le sens de ce que tu dis, hein.
Non, à part qu'elle fait une raréfaction du marché du logement.
Surtout qu'elle a été tranchée à Paris avec un système rectangulaire.
Mais on est en train de corriger, parce qu'on s'est d'ailleurs rendu compte que ce qu'on appelle les rénovations monogestes, c'est-à-dire que je fais juste les fenêtres ou juste l'isolation du toit, ça ne produit pas de progrès énergétique.
Et que les personnes qui habitent dans des locaux qui sont des passoires thermiques dépensent moins d'énergie que ceux qui habitent dans des appartements bien isolés.
Je faisais la remarque juste parce que c'est dans ce sens qu'il faut aller.
On s'est rendu compte que maintenant on voulait réserver MaPrimeRénov pour des rénovations d'ensemble, mais qu'il y a trop de reste à charge malgré les aides de l'État et que les ménages n'ont pas de quoi se le payer. Donc on est devant des situations qui ne sont pas faciles à dénouer, objectivement.
Au moins, ce n'est pas leur priorité, ils ont d'autres priorités.
Les impôts, Gabriel Attal dit non, vous êtes d'accord que la solution finances publiques dérivantes...
Oui, il ne faut pas augmenter les impôts. Bon. Nous sommes à 45,4% de prélèvements obligatoires. Le niveau le plus élevé, non seulement en Europe, mais dans le monde, on alterne une année sur l'autre, on est le premier ou le second, on n'est jamais le troisième. Voilà, on n'est jamais le troisième. C'est trop élevé. Bon. Il n'y a plus de marge de manœuvre. D'ailleurs, on le sent bien, les Français ne veulent plus d'impôts. Nous sommes à des niveaux d'impôts. Et si nous passons, bien évidemment, aux recettes publiques, parce que les prélèvements obligatoires, c'est une définition un peu restrictive, les recettes publiques, c'est quand même 55% du PIB. Donc plus de la moitié du PIB va dans le secteur public. Nous ne pouvons pas l'augmenter et je crois qu'on ne peut que regarder du côté de la dépense. Écoutez, la dépense, eh bien, elle a augmenté. Nous sommes à 58, en fin 2022, nous étions à 58,2% de dépenses publiques.
C'est le chiffre OCDE, ça.
Voilà.
Le chiffre OCDE.
Et de l'État et de l'administration de l'INSEE. Nous étions en 2019 à 55,4%. Nous sommes sortis du Covid. Pourquoi ne retournerions-nous pas très rapidement, pas lentement sur 5 ans, mais très rapidement à 55,4%. Il n'y a aucune... C'était des dépenses exceptionnelles, dépenses qui disparaissent. Donc, c'est possible. Dire que ce n'est pas possible, que ça va casser le système social, tout ça est erroné, n'est-ce pas ? Bien au contraire, il faut savoir mettre fin aux dépenses temporaires.
Les impôts, Gilles Raveau, il y a plein d'idées fiscales chez les élus qui fleurissent tous les jours.
Là. Alors, je voudrais juste, de façon pas du tout polémique, je suis très sérieux, rappeler que ce que vous dites est évidemment juste sur les chiffres, mais que la première explication de cette forte hausse des dépenses publiques, c'est les aides aux entreprises.
Donc, et oui.
Comment ça?
Ah bah si, en variation, ce qui a le plus augmenté, c'est toutes les aides aux entreprises, notamment durant le Covid, bien sûr.
C'est pas ce qui a coûté donc, plus cher.
C'est ce qui a le plus augmenté, mais c'est pas ce qui a coûté plus cher. Mais vraiment, non mais c'est pas... Si, vraiment,
donc,
vraiment.
En volume,
en termes de variation, les trois points-là...
Ouais.
Tout a augmenté, mais bien sûr que oui. Mais pensez au Covid, c'est évident.
Mais le Covid, c'était des mesures exceptionnelles destinées.
Non, je dis, tu veux dire, c'est en valeur globale ou c'est en pourcentage d'augmentation des aides? Parce que pour moi, c'était en pourcentage d'augmentation des aides.
On a fait du vocation à baisser parce
qu'on a fait du chômage partiel. Attendez,
nous ne devons pas subventionner les entreprises.
Allez-y, Gilles. Allez-y.
Non, mais pardon. C'est juste un fait, voilà, qui est connu de tout le monde.
Absolument.
C'est juste pour vous dire.
Ça me pose
si vous
pas
voulez
de
revenir. Non, mais moi, enfin voilà. Rien ne me pose de problème, je suis toujours très content. Mais ce que je veux dire simplement, c'est que si vous voulez revenir aux chiffres avant crise de dépenses publiques, il faudra notamment, et en premier.
Absolument.
Supprimer ces aides. Et que
mais
donc,
quelles aides? C'est quoi? Des allègements de cotises? C'est quoi?
Le Covid.
Mais c'est quoi? C'était quoi les aides du Covid? Le PGE?
Le PGE.
Mais le PGE,
c'est l'argent. Mais l'argent qui a été donné aux entreprises.
Et donné comment? Le PGE.
Il y a eu le chômage partiel.
On le voit encore dans les chiffres de 2022, on le voit encore.
Mais c'est les cautions.
Dans les chiffres de 2023.
Il y a eu les cautions. C'est les cautions.
Oui.
Bah si, c'est pas
la plupart. La plupart ont été des cautions.
Je rappelle.
C'est la banque qui donne le PGE avec la caution de l'État.
Avec une garantie, c'était garantie à 95% par l'État.
La garantie a été intégré dans une potentielle.
Alors, il y a des PGE qui n'ont pas été remboursés.
Oui, ben, mais le risque à 6 en donné, il y a un pourcentage de risque. C'est pour ça que je posais la question.
Non, mais les amis, non, mais vous ne connaissez pas les chiffres, qu'elles soient.
Mais
non, mais... On ne peut pas discuter d'un fait aussi.
Mais non, mais je suis d'accord. Gilles, j'accepte.
On est tout à fait d'accord.
J'accepte l'idée.
Il faut le baisser.
J'accepte l'idée que les aides. Mais j'aimerais juste renseigner ce qu'il y a d'ailleurs le mot aide. Ouais. C'est quoi les aides de Covid? Je me souviens qu'on a fait des PGE massifs. On a fait du chômage partiel massif.
Et ben, okay. Par exemple, il y avait eu, je crois que c'était 5 000, 10 000 euros qui avaient été donnés aux auto-entrepreneurs. Ça, c'était un don. Les restaurateurs, par exemple, l'année du Covid, la restauration l'année du Covid a fait les profits les plus élevés de son histoire, oui. Alors qu'elle n'avait jamais autant travaillé.
Mais voilà. Ça a permis, ça a fait bondir la dépense publique à 61% et elle est redescendue parce qu'on n'a pas renouvelé ces aides-là.
Donc
elle
est redescendue. Simplement, en termes descriptifs, c'est que la première raison en termes d'analyse de la variation de la hausse des dépenses publiques, c'est les aides aux entreprises, et que donc, si vous voulez faire diminuer ce chiffre, c'est les aides aux entreprises qu'il faut faire baisser. Voilà. Si il y a encore eu des aides aux entreprises décidées récemment pour les agriculteurs, etc. Bref. Enfin, je vois bien qu'on y arrivera.
Mais non, mais oui,
non, mais parce que dans le
débat, c'est normal.
Dans l'écart 55,
non, parce que j'essaie d'amener un fait.
Dans l'écart 55-58%, les aides aux entreprises sont beaucoup plus marginales que dans l'écart qu'il y a eu entre 55 en 2019 et 61 en 2020, où les aides aux entreprises sont effectivement largement dominantes.
Il y a pas mal d'éléments Covid qui se sont éteints aujourd'hui.
Absolument. Bon, ils sont
déjà
éteints.
Il y en a qui sont encore. Le
chômage
partiel.
Mais c'est pas suffisant.
Le chômage partiel n'est pas totalement éteint.
Je suis désolé, j'adore Gilles, mais non, c'est pas un fait, Gilles. C'est une lecture de ce que tu appelles presque des cadeaux aux entreprises sur une multitude
non, il a pas
de choses.
Hein. Il n'a pas dit ça.
Pour taquiner, pour détendre l'atmosphère. Ouais. Voilà, on peut pas comparer un PGE avec les 1500 par semaine que tu as donné à un ostéopathe avec une aide de maintien à l'emploi sur des petits restaurants de moins de 5 salariés. Alors, si tu mets tout ça d'un coup, ah oui, ce sont des aides aux entreprises. Ah ouais, mais non, parce qu'en fait, ça dépend un petit peu de chacun.
Ah non, mais, oui,
mais j'entends ce que tu veux dire.
Mais ça, c'est le problème. C'est ce qu'on appelle la macroéconomie. C'est
le fait. Mais la différence entre, l'universitaire et le chef d'entreprise, c'est que je te dis, moi, j'ai eu des PGE et des machins. C'est pas la même chose.
Mais si tu raisonnes.
Qui sont à toi et qui sont gagnées, subventions, il y a des choses qu'il faut rendre. PGE. C'est pas un cadeau, hein. C'est une dette supplémentaire. Certes, une garantie de l'État. Il y a là. Pour certains, elle s'est arrêtée.
Mais si tu raisonnes.
Expliquer au chef d'entreprise ce qui se passe.
Mais si tu raisonnes au niveau d'un pays, il faut bien que tu fasses des additions. Tu vois, tu peux pas avoir un tableau avec 2000 lignes. Donc, tu es bien obligé de mettre.
Faisons des bonnes additions.
Alors, le dernier acte majeur de soutien de l'État au secteur des entreprises, ça a été la bascule du CICE en allègement de cotisation. Ça a été le dernier acte lourd.
Alors, il y a deux autres faits que je voulais amener dans la discussion.
Bon, bah, allez-y. Vous pouvez.
On est sur quelle discussion?
Initialement des impôts.
Le premier, c'est que j'ai lu, avant de venir ce matin, les différents sondages qui ont été faits récemment. Il y a un sondage Elab qui a été fait hier, et il y a un sondage qui a été publié par Libération hier aussi. Quand vous regardez les chiffres, c'est très intéressant. Il n'y a aucune mesure d'augmentation des impôts qui est soutenue par la majorité de la population. C'est-à-dire que le seul impôt qui reçoit 2/3 de soutien dans le sondage de Libération, c'est très précisément une taxation temporaire des super-profits. Ce qui veut dire, c'est que même les questions habituelles de type augmentation de l'impôt sur le revenu pour les très hauts revenus, augmentation des impôts sur les entreprises, même dans la France d'aujourd'hui, la majorité des gens sont contre. Voilà. Premier fait. Deuxième fait, je voudrais rappeler un travail de chercheur excellent d'Antoine Lévy, qui a analysé le succès d'Emmanuel Macron à la présidentielle de 2017. Il a fait un travail économétrique extrêmement précis. Qu'est-ce qu'il constate ? En février 2017, Emmanuel Macron, dans les intentions de vote, est derrière Marine Le Pen et il est derrière François Fillon. Il annonce à ce moment-là la suppression de la taxe d'habitation. En mars 2017, Emmanuel Macron a pris 5 points des intentions de vote. Il est en tête et cet écart ne sera jamais comblé par ses concurrents. Ce que démontre Antoine Lévy, c'est que comme la taxe d'habitation est très très différente sur le territoire et qu'on a les résultats des votes par bureau de vote, vous me voyez venir, on peut analyser très finement le gain monétaire anticipé par les différents habitants et la hausse du nombre de voix reçues par Emmanuel Macron. Et donc Antoine Lévy démontre, au sens scientifique du terme, que par cette seule mesure, par cette seule promesse de suppression de la taxe d'habitation, Emmanuel Macron engrange 1 300 000 voix. 1 300 000 voix. Et l'écart avec Marine Le Pen au premier tour sera de 900 000 voix. Donc ce que ça veut dire, et c'est là le message que j'aimerais essayer de faire passer aux auditeurs, c'est qu'il y a un consensus aujourd'hui, donc la droite là aussi peut se détendre, sur le fait de ne pas augmenter les impôts. Plus personne ne veut payer plus d'impôts. Maintenant, je conclue. Évidemment, ce qui va se passer dans la réalité, c'est que bien sûr qu'il y aura des hausses d'impôts, comme vous l'avez très bien dit, Nicolas, à plusieurs reprises. C'est déjà le cas. Quand vous diminuez les remboursements des dépenses de santé, bien sûr que c'est des hausses de fiscalité. Et la situation des dépenses publiques est tellement dingue que évidemment qu'il y aura des hausses d'impôts. Et comme tout le reste sous Macron, mal fait à l'arrache, comme tout ce qui est fait là, depuis des années.
Gilles, il y a un autre effet absolument fascinant qui va exactement dans le sens de ce que vous décrivez sur la taxe d'habitation. Je me souviens très, très, très bien François Hollande. Il inverse les sondages définitivement quand il dit qu'il va faire une taxe à 75%. Exactement. Alors que Hoff, il dira que c'était une connerie.
Et ça faisait des
années. Il le savait.
Ça fait des années qu'il
le savait, mais qu'il. Voilà. Et à partir du moment où il fait ça, tout change dans les sondages, parce qu'à l'époque, Mélenchon était en train de caracoler quand il avait dit qu'au-delà de je ne sais plus combien, il prenait 100%.
Oui, oui. Et juste là-dessus, très rapidement, de la même façon, en 2011, lorsque Nicolas Sarkozy augmente la fiscalité, l'impôt sur le revenu, suite à la crise de 2008, une très forte chute dans les sondages. Et ce que vous dites sur François Hollande, c'est encore pire que ça. C'est qu'effectivement, dès septembre 2012, il vient d'arriver au pouvoir. Il prend un gadin de 10 points en termes de cote de popularité. Et dans les sondages, la première raison des gens, c'est l'augmentation de la fiscalité.
Oui, bien sûr. Moi, je vais promettre la fin de la TVA, de la CSG, de l'IR, de l'IS, de la TICPE, de la TICGN, et je vais être élu. Allez-y, non, Philippe Trénard.
Je pense qu'il faut être raisonnable et qu'il faut inciter les politiques à être raisonnable et à être des gens responsables et à pas être des démagogues où on dit aujourd'hui populiste.
Vous croyez à ce que vous dites?
Bonne chance,
j'y crois.
Vous croyez encore à ce que vous dites?
Oui, j'y crois. La notion de super profit, bien évidemment, c'est une notion très simple, parce que dans la tête des gens, super profit, super dividende, super riche, tout ça, c'est un peu la même chose.
Il y a quand même une définition. Une entreprise qui fait des profits particulièrement exceptionnels, mais pour des raisons uniquement de prix de marché qu'elle ne maîtrise pas.
Prenons une compagnie de réassurance qui passe sa vie à passer de pertes souvent abyssales à des gains très élevés, parce que c'est ça son métier, n'est-ce pas ? Bien évidemment, ça veut dire que grosso modo, en moyenne, une année sur deux, je dois la taxer au super profit. Naturellement, viendra d'ailleurs la demande. Est-ce que les super pertes ne devraient pas être prises en charge par l'État?
Comme les moins-values pour un particulier.
Non, et allons un tout petit peu plus loin. La notion de super profit, elle est économique. Elle permet, grâce au super profit, ça vous permet de faire décliner des entreprises inefficientes et de faire caracoler en tente des entreprises efficientes. Bien évidemment, si vous prenez le super profit de l'entreprise très efficiente, vous sauvez l'entreprise inefficiente et implicitement, c'est comme une subvention à l'entreprise inefficiente. Donc, distinguons bien. Il y a deux choses. La notion de super profit, c'est une notion facile politiquement, elle est fausse. Les politiques doivent expliquer que c'est une erreur, qu'elle va avoir des conséquences sur l'emploi, les salaires, la productivité extrêmement défavorables. Inversement, le vrai problème, c'est le profit de monopole. C'est une entreprise est-elle en monopole,
oui, d'accord,
notamment du fait de l'action de l'État. Dans ce cas-là, il faut la taxer. Et vous pouvez même prendre tout le profit, puisque c'est une rente de situation.
Et puis j'aimerais qu'on explique juste aux petits salariés, parce qu'ils représentent quand même quasiment 20% aujourd'hui de quelques entreprises auxquelles on pense, quand on pense super profit, je pense au groupe Total. Alors là encore, je vais me faire
allumé. Qu'est-ce qu'on va aller dire au petit salarié de Total qui a pris des parts dans son groupe Total parce qu'il croit à sa boîte et qui ne gagne pas forcément les mêmes salaires que le patron de Total? Pourquoi lui verrait ses futurs potentiels dividendes surtaxés alors qu'il fait partie de la classe moyenne française? Je suis désolé, là il y a un profond problème de démocratie, profond problème. Il y en a un qui prend un risque et on lui dit bah non, il faut faire un effort national, c'est toi qui prends. Les autres, non, sachant qu'il y a 50% des Français qui ne payent pas d'impôt sur le revenu. Donc il y a un vrai problème de démocratie dans ce genre de réaction depuis 25 ans.
J'avance.
C'est pas grave.
Non, mais le sujet me passionne.
Je suis pas sûr que ceux qui défendent ça ne sont pas les plus grands démocrates.
Le sujet me passionne et moi je serais prêt à ouvrir tous les débats dont vous parlez sur tous les sujets. Malheureusement, l'émission est un peu contrainte par la pendule. La Cour des comptes s'attaque à la première des niches fiscales. La première des niches fiscales, ce sont les services à la personne. Je vous fais le truc très court. Ça coûte trop cher, dit la Cour des comptes, et on se rend compte que sur les 4,4 millions de ménages qui recourent à du ménage, à du nounou, à un jardinier, à du bricolage, eh ben, il y en a quand même beaucoup qui sont des gens plutôt aisés, qui peuvent très bien se passer du soutien de l'État. Donc il faut réduire la facture d'1,1 milliard d'euros sur les 9 milliards observés en 2022. Alors, faut que chacun doit aller droit au but parce qu'on a 6 minutes 50. Il a un déficit de temps de parole.
Je le redis fondamentalement. Alors, j'ai bien entendu dans votre phrase, Nicolas, certaines personnes qui en profitent ont suffisamment aisé pour ne pas avoir besoin d'avoir une réduction d'impôt s'ils prennent une femme de ménage, une nounou, un accompagnement pour nos aînés.
C'est ce que dit Pierre Moscovici.
Ouais, mais Pierre, alors d'abord, lui, je veux même pas
parler. Non, on n'est pas là pour débattre.
Parce que quand vous avez été ministre des Finances et qu'après, derrière, vous venez dire, remplissez pas bien les caisses.
Migaud, il l'a fait aussi.
Nicolas, les aides fiscales, les réductions d'impôts et crédits d'impôts, pour toutes ces aides-là, d'abord, elles sont socialement utiles pour la société, vraiment utiles pour la société. Accompagnement médical pour les gens âgés, pour les crèches, pour les enfants. Et surtout, elles n'ont été faites que dans un seul but, éviter le travail au noir, pas favoriser les gens qui ont de l'argent et qui vont avoir une réduction d'impôts parce qu'ils ont une femme de ménage. Sinon, je vous le donne en mille, on revient 20 ans en arrière. Et ça recommence. C'est sûr et certain. Mais très très important qu'il y ait des chèques services pour que les gens qui travaillent dans ces métiers, qui sont des métiers avec peu de qualifications et une super protection. Sinon, on va encore avoir des travailleurs pauvres en France, même pas protégés si on fait ça. Je le rappelle, parce que c'est mon métier, la défiscalisation sur ce genre de choses. Je peux vous dire que les effets sur les 20 ans de ma carrière, quand il y a eu des avantages rognés puis rehaussés, ça change tout en taux de travail au noir dans ces métiers.
Il faut être
très, très vigilant pour ça.
Je l'ai observé 2013.
C'est pas une niche fiscale de riches.
2013, Christian Ecker décide de taper sur les soutiens d'État aux services à la personne, mais sauvagement. Et le travail au noir a explosé. Et devant le travail au noir qui explosait, les parlementaires ont remis à son niveau initial, je me souviens, c'était la subvention par heure travaillée. Et dès l'instant où elle avait retrouvé les 2 euros par heure travaillée, le travail au noir.
Et c'est le travailleur fragile qui est pénalisé.
Gilles Raveau, là-dessus, 4,50, il faut aller.
Allez, me tais.
Est-ce que la Cour des comptes. Non, mais la Cour des comptes est dans son rôle, là. Il faut faire ça.
Oula. Clément Carbonnier. Nathalie Morel, Le retour des domestiques, livre exceptionnel. Vous en trouverez un résumé parfait, exhaustif, sur le site de l'excellent Martin Anota, professeur de sciences économiques et sociales. Qu'est-ce que nous montrent Carbonnier et Morel? Cette politique extrêmement coûteuse. Il n'y a que la moitié des heures qui concernent de la garde d'enfants et du vrai besoin de personnes âgées. La moitié des heures, c'est des personnes âgées riches qui achètent des services de luxe, du type cuisinière, jardinier, chauffeur, pour venir chez BFM, etc.
C'est ce que dit aussi la Cour des comptes.
Et par ailleurs, donc, coût pour les finances publiques, à peu près le double, par exemple, pour la garde d'enfants, que ça serait en crèche. Donc, ça coûte extrêmement cher aux finances publiques. Autre aspect qui est peut-être le plus grave, les personnes qui occupent ces emplois sont isolées. Elles ne peuvent évidemment pas se syndiquer. C'est des temps de travail très courts de quelques heures par semaine sur des personnes qui ont une protection sociale qui est très faible. Le bilan de cette politique, d'où vient cette politique, contrairement à ce que vous avez dit, cette politique, c'est une parfaite politique d'énarque nourrie que de très bonnes intentions. C'est déjà la lutte contre le chômage de masse. Au début des années 90, on fait des comparaisons internationales comme on fait tout le temps sans réfléchir. On voit qu'il y a beaucoup moins d'emplois dans les services en France qu'aux États-Unis. Et qu'il y a plein de petits boulots aux États-Unis qui n'existent pas en France. Célèbre texte de Thomas Piketty, déjà à l'époque, il avait écrit quand il avait 6 ans. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? On subventionne massivement ces emplois-là, d'abord pour résoudre le problème du chômage. Voilà. C'est une politique qui ne part que de bonnes intentions et qui a un résultat absolument désastreux, même si, évidemment, c'est comme toutes les mauvaises politiques. Quand on les enlève, ça crée aussi les énormes problèmes que vous soulevez. Donc, bon courage. Mais encore une fois, ce bouquin est dingue. Lisez-l'en, encore une fois, je rappelle. Clément Carbonnier, Nathalie Morel, Le retour des domestiques. Les stats qui sortent sont complètement folles. Et vous en avez un résumé parfait, donc, sur le site de Martin Anota.
L'une des idées de la Cour des comptes est effectivement de distinguer les services à la personne vraiment utiles et un peu essentiels au quotidien à d'autres qui relèvent un peu plus du confort.
Oui, le jardinier.
Et donc, de modifier, effectivement, les soutiens de l'État en fonction que c'est du jardinage, du bricolage ou alors de l'assistance à une personne âgé ou un handicapé.
Change la TVA
et
puis c'est tout.
En
tant qu'énarque, bien mis en cause par Gilles, et en tant qu'inspirateur de la mesure, j'aimerais bien
Inspirateur
de la mesure, oui, j'ai une antiquité certaine, hein, de par mes cheveux, etc.
Donc vous étiez à la manœuvre pour mettre en place...
J'étais à la manœuvre et on a fait les premières notes qui ont proposé cette mesure. C'est une mesure, je pense... excellente dans le système français. Est-elle excellente dans l'absolu ? Je n'en sais rien. Effectivement, elle évite le travail au noir. Attention, alors vous me diriez, il suffirait de combattre le travail au noir. C'est assez simple. Mais si on combat le travail au noir, oui, ça veut dire que les fameuses heures, elles vont diminuer dardard. Et très vite, n'est-ce pas ? Donc, je crois que là, au contraire, ça montre combien le coût du travail est élevé, combien pour des travaux d'insertion, parce que ce sont des travaux d'insertion. Il est inimaginable de voir le nombre de personnes qui parlent très mal le français, etc., qui occupent ces emplois-là, n'est-ce pas ? Donc je crois que c'est des emplois qui sont absolument nécessaires et qu'il faut donc maintenir cette mesure. Alors, distinguer les vrais emplois des faux emplois d'aide à domicile, là, je pense qu'une armée, si on multipliait par 10 ou par 100 la Cour des comptes, il n'arriverait pas à faire une distinction intelligente. Naturellement, toute mesure, n'est-ce pas ? Nous ne sommes pas le Gosplan. Toute mesure de cette nature a des bénéficiaires qui nous plaisent beaucoup, des bénéficiaires qui nous plaisent un peu moins et des bénéficiaires qui ne plaisent pas du tout. Mais en revanche, ce qui est très sûr, c'est que ça permet de créer des emplois à des personnes qui seraient de toute façon au chômage s'ils n'étaient pas au travail au noir.
J'allais juste dire un truc. L'effet crédit d'impôt, pour le pratiquer avec beaucoup de mes clients patrimoniaux depuis 20 ans, l'effet patrimonial aussi fait que les gens regardent moins au centime près ce qu'ils versent à l'emploi à domicile, puisqu'ils savent que ça leur coûtera intellectuellement la moitié. Non, mais c'est important parce que je connais beaucoup de gens qui devraient peut-être payer 6 euros de l'heure et qui vont être à 8 ou 9 sur demande du salarié. Parce que ça rejoint ce qu'a dit Gilles. Le vrai sujet, c'est peut-être de revaloriser ces métiers, mais vous l'avez dit aussi, revaloriser ces métiers, ce qui sont des métiers difficiles, que plus personne ne veut faire, c'est peut-être plus ça le problème que d'empêcher finalement les gens d'employer des gens.
La Cour des comptes, elle propose de faire 10% d'économie. Hein. C'est pas le coup de hache. Et
après, oui, mais voilà. Le texte est ciblé.
Peut-être 10%, effectivement.
Le texte est ciblé.
Qu'on peut nettoyer un peu la mesure.
On a fini, Encore un mot de la fin, si vous voulez, Gilles.
Non, je voulais faire une mauvaise blague en disant qu'ils vont pas sabrer la mesure, les gens de la Cour des comptes, puisque les premiers à l'utiliser. Donc.
Merci d'avoir été là aujourd'hui. Gilles Raveau, Philippe Prénard.
Un logement de fonction. T'as mérite pas.
Il l'utilise pour l'accompagnement des personnes.
Pour la nounou, le jardinier, le chauffeur. Regardez, les salaires à la Cour des comptes.
La moyenne d'âge est élevée.
Ça fait deux jours, j'arrive plus à refermer l'émission.
Et puis là, on est très disciplinés. Je vous là, il y a les meilleurs là.
Voilà. Gilles Raveau, Philippe Prénard, Stéphane Van Uffel. Rendez-vous demain 9h.
Merci.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.